Bienvenue sur la chaîne Ambiance Architecture Urbanité, AAU.
De ce que nous avons pensé par rapport à cette deuxième table ronde. Donc cette thématique de la dimension socioculturelle des ambiances, elle n'est pas complètement nouvelle pour l'UMR, mais elle a pris, au moins selon notre lecture, je crois, jusqu'au présent, peu de place dans les travaux de l'UMR et a été rarement menée au premier plan dans les réflexions théoriques et aussi les recherches empiriques. Elle a été, par exemple, abordée, si vous voulez revenir, dans une partie de l'ouvrage collectif Ambiance urbaine en passage, édité par Jean-Paul et Christian Duarte, suite à un séminaire à Rio. Donc, il y a déjà une partie là-dedans, mais pour moi, c'est la partie la plus évidente de cette intégration de cette réflexion socioculturelle. Et notre souhait dans cette table ronde est d'aborder deux aspects d'une prise en considération de la dimension socioculturelle des ambiances. Elle adresse d'un côté la question du rôle des diverses dispositions socioculturelles, dans le vécu des ambiances, afin de prendre compte de la variété du monde contemporain. Et c'est avant tout la sociologue urbaine Andrea Loewe qui a pointé déjà au début des années, dans sa Sociologie de l'espace, qui est aussi traduit en français, le doigt sur la nécessité d'une prise en considération du genre, de la classe ou de l'ethnicité dans l'expérience des atmosphères. Donc, c'est lié dans ses réactions aux travaux de Gernot Böhm, dans une tradition quasi phénoménologique, on peut dire, où il disait que ça manquait considérablement. Et dans la suite, dans ses réflexions, qui ont jusqu'au présent, selon notre connaissance, trouvé très peu de résonance dans la recherche sur les ambiances et les atmosphères, nous souhaitons aborder des questions suivantes dans cette table ronde. Quelle est la place de la socialisation et des dispositions sociales dans le vécu des ambiances et comment peut-on l'aborder? Aussi très, très proche à ça, ou peut-être qui se déduit à ça, c'est la question de la part du conscient et du préconscient et comment aussi peut-on approcher le dernier dans ce contexte. Et peut-être comme conséquence du tout, qui est aussi le titre de l'ouvrage que je viens de citer, qu'en est-il du partage d'une ambiance et de l'intersubjectivité comme constitutive d'une ambiance? Mais l'intégration de la dimension socioculturelle dans la recherche sur les ambiantes invite aussi d'autre côté à s'intéresser plus explicitement au caractère ambiental des mondes sociaux et de la vie sociale comme génératrice d'ambiance. Cette dimension de la problématique questionne le rôle de l'événement, de la scène, de la présence humaine, des gestes, etc., donc du social dans toutes ces expressions et dimensions dans la production d'une ambiance. Cette deuxième perspective peut se traduire dans des questions suivantes que nous avons posées, que nous avons envoyées à nos intervenants d'aborder peut-être dans cette table ronde. Globalement, se pose la question de savoir qu'est-ce qui fait ambiance et qu'est-ce qui lui donne sens. Et plus précisément, nous souhaitons aborder le rôle des effets de présence et des effets de signification dans l'émergence d'une ambiance. Ou autrement dit, quel est le rôle de la dimension sémiotique et de la présence des symboles pour l'émergence d'une ambiance? Une focalisation sur la vie sociale comme générateur d'une ambiance soulève aussi la question du rôle du cadre bâti dans cette perspective qui est mise en arrière, mais qui joue peut-être aussi un rôle. Et sur un plan méthodique ou méthodologique, se pose la question comment la vie sociale peut-elle être abordée si on la considérait comme une génératrice d'ambiance. Et elle nous invite finalement aussi à réfléchir sur le rôle des notions comme celle de la résonance ou de la correspondance pour qualifier la part socioculturelle des ambiances. Comme dans la table ronde de ce matin, nous avons contacté et demandé à nos quatre invités qui se sont tous confrontés plus ou moins explicitement dans leurs travaux à cette thématique, de se confronter à ces questions que je viens de mentionner. Avant de leur laisser la parole, de nouveau 10 à 15 minutes, je les présente rapidement dans l'ordre comme on souhaiterait qu'ils ou elles interviennent autour de la table ronde. Il y a Virginie Millot, qui est anthropologue urbaine. Elle est maîtresse de conférence au laboratoire d'ethnologie et sociologie comparatif à Paris-Nanterre et actuellement en délégation CNRS au Cresson à AU. Et elle s'intéresse au processus d'émergence sociale et culturelle dans les villes et, ça arrive, et comme au hip-hop dans le contexte français, dans le cadre de sa thèse, mais aussi au conflit d'espace et des marchés informels. Et ce qui nous a poussé à l'inviter, c'est aussi un article sur les ambiances dans le quartier de la Goutte d'Or qu'elle a écrit dans un des premiers numéros de la revue Ambiance. La deuxième intervenante, c'est Rima Abdi, qui est urbaniste et doctorante au Cresson. Et nous l'avons invitée à cause de sa thèse qui porte sur la production sociale du patrimoine dans 3 cités d'habitation bon marché à Grenoble. Et elle s'intéresse dans cette thèse particulièrement aux émotions et à l'attachement des habitants à leur lieu d'habitation. Et nous avons pensé aussi là-dedans, il y a aussi une prise en considération de la dimension culturelle. Notre troisième invitée, c'est Jinan Diab, qui est architecte et paysagiste. Elle est également doctorante au Cresson. Et dans sa thèse, elle s'intéresse à la transposition des ambiances dans les espèces reconstruites avec 2 terrains à Beyrouth. C'est le camp Nahr el-Bared et les quartiers de Beyrouth dévastés par cette double explosion il y a 2 ans, je crois. Voilà. Oui, d'accord, voilà. Et là aussi, nous avons pensé qu'il y a peut-être cette dimension socioculturelle qui joue un rôle important. Et last but not least, nous avons invité Charles Ambrosino, qui est historien et urbaniste de formation. Il est professeur à l'Institut d'urbanisme de Grenoble. Il travaille sur la ville créative et les liens entre art, économie créative et transformation urbaine. Et en lien avec notre thématique, je crois que c'est intéressant de mentionner le projet ANR qui dirige actuellement, qui questionne cette dynamique de transformation en s'appuyant sur les concepts de la scène et de l'ambiance. Et comme pareil pour la première table ronde, nous avons demandé à 2 collègues de réagir à chaud par rapport aux interventions et aux discussions. Donc la première qui a accepté ce rôle pas très facile, c'est Rachel Thomas, la directrice de notre UMR. Elle est sur sa casque scientifique, sociologue de formation et directrice de recherche au CNRS. Et elle a travaillé, et pour ça nous avons pensé qu'elle est une personne en lien avec cette thématique, sur la marche et la question de l'accessibilité ou l'inégalité de l'accessibilité même de l'espace public, mais aussi sur l'aseptisation et pacification des ambiances piétonnes, et qu'elle a proposé, suite à ses recherches, une approche critique de l'urbain depuis les ambiances. Et nous sommes dit, ça, c'est pas tellement loin de ce qui nous intéresse ici. Et nous avons également demandé à Laure Breyer, qui est architecte, docteur en architecture et maître de conférence à l'ENSAG, et qui a travaillé sur la thèse sur la portée opératoire du film dans la compréhension et la conception de l'espace urbain. Et récemment, elle a dirigé un projet de recherche-création sur la mémoire des lieux et du travail dans la vallée de la Remanche. Et c'est surtout ce projet où nous avons pensé que ça pourrait aussi avoir un lien avec notre thématique et pas l'ANR apparaître qu'on avait discuté avant. Donc je crois que nous entrons tout de suite dans la table ronde et nous commençons avec la première intervention de Virginie.
Ok. Bon, merci de cette invitation. Moi, on pourra en discuter après, mais je t'avouerai que C'est une invitation qui m'a d'abord embarrassée. La lecture du propos m'a... je savais pas quoi faire avec ça. J'étais pas à l'aise avec cette idée de réfléchir la question des ambiances en la ramenant soit du côté des dispositions culturelles, soit du côté des cadres culturels, etc. Et puis en discutant avec Jean-Paul, qui m'a dit mais repars sur cette analyse de l'ambiance à la Goutte d'Or. Et puis en retravaillant le texte, en fait, vous verrez, je vais vous faire une proposition qui moi m'a permis de me sortir en fait de ce que je considérais comme un guépier. Hein, c'est-à-dire de me ramener à la question la question culturelle. Moi, je suis anthropologue. Alors, la question de la culture, on parlait ce matin de ces concepts hein, qui peuvent être donner lieu à des définitions multiformes. Il n'y a pas un concept qui a donné lieu à plus de définitions que le concept de culture. Or, le concept de culture, c'est vraiment c'est le béaba. C'est la clé de douce des anthropologues. Mais de quoi on parle quand on parle de culture ? Là est la question. Et c'est là où ça devient intéressant. C'est comment on passe de l'individu au collectif, quels sont les différents leviers qui vont permettre de monter en généralité. Alors, je vous propose donc de réfléchir à cette question donc en repartant de ce terrain de la Goutte d'Or que j'ai effectivement sur lequel j'ai pas mal travaillé. Une enquête collective il y a quelques années, puis c'est un terrain que je revisite régulièrement. Donc, rapidement, une petite présentation. J'imagine que c'est un quartier qui est familier pour un grand nombre d'entre vous, mais peut-être pas. Donc, c'est un quartier qui entremêle, en fait, plusieurs centralités immigrées. On a d'un côté Barbès, hein, qui constitue, depuis les années 60, le quartier arabe de la capitale. On a Châteaurouge, qui est un des principaux archipels de l'Afrique à Paris, depuis les années à peu près 90. Et puis, depuis une vingtaine d'années, les Tamouls se sont retrouvés dans un périmètre plutôt à l'est du quartier. Et donc, on a un ensemble de centralités immigrées qui s'entremêlent. Et tous ces territoires font partie d'une cartographie imaginaire de Paris, ce qui est aussi important pour le propos. C'est-à-dire que Barbès est un haut lieu de Paris, vu d'Alger. Châteaurouge, un haut lieu de Paris, vu de Dakar, etc. Donc, c'est aussi des quartiers qui existent, hein, des espaces, des bouts de ville, des territoires qui existent en archipel, dans un imaginaire beaucoup plus large hein, que celui de l'espace national. C'est un quartier qui constitue, et c'est ce qui va nous intéresser ici, un espace de ressourcement pour des générations successives d'immigrés qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, du Mali, des Antilles, du Cameroun, du Sénégal, des deux Congos, du Sri Lanka, etc., etc. Vous verrez que c'est ça, hein, l'énigme, et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on rencontre dans cet espace une pluralité des individus qui ont des biographies et des trajectoires extrêmement différentes et qui tiennent finalement le même discours hein, sur ce que leur fait ce quartier. Donc, toute cette population, enfin, tous ces exilés, déracinés, enfants d'immigrés, viennent de toute la région Île-de-France dans cet espace pour acheter des produits hein, qui leur permettent de retrouver le goût du pays. Ce que Scan Rollin a très bien montré, hein, le rôle de la consommation hein, dans ce ressourcement culturel, mais qui viennent aussi acheter de la presse nationale, de la musique hein, qu'on peut pas retrouver ailleurs, et puis tout un ensemble d'objets familiers. Alors, Marianita Palombo, donc, qui est anthropologue, maître de conférence à l'ENSA de Saint-Étienne, et avec qui faisait partie de l'équipe qu'on avait montée en 2006, avec laquelle on a travaillé, qui, elle, a fait une thèse donc, sur le quartier, qu'elle a soutenue en 2014, hein, qui s'intitule « Barbès, Châteaurouge, Goutte d'Or, ailleurs, commence ici, anthropologie d'un espace d'altérité à Paris ». Elle a fait, dans sa thèse, justement, du ressourceur, une des figures du quartier. Et un de ses interlocuteurs, qui s'appelle Malik, étudiant sénégalais, lui résumait justement son rapport au quartier en affirmant « Les gens ici, ils peuvent vivre au Sénégal tout le temps, avec la télé, la musique, les journaux qu'on vend ici. Finalement, il y a tout. Il y a vraiment une vie que les gens se constituent, qui fait que du point de vue temporel, les gens ici vivent dans le temps sénégalais. » Alors, Il y a effectivement dans le quartier tout un ensemble de boutiques, de restaurants qui vont constituer des centralités pour des personnes originaires de différents pays. Et on a un espace public qui, ça tout bon mais c'est mal, on montrait dans les années 90, composé, diffracté en une multitude de petits territoires se reconstituent justement autour de ces boutiques ou de ces restaurants. Donc c'est des lieux où on peut rencontrer des compatriotes, où on peut partager des préoccupations commune. C'est des lieux où on peut débattre dans sa propre langue, ce qui est important, de ce qui se passe au pays, partager des événements politiques, des événements sportifs qui n'ont pas ou peu d'écho dans l'espace médiatique national. C'est aussi un quartier où on peut partager une temporalité religieuse. L'espace de la Goutte d'Or se métamorphose complètement pendant la période du Ramadan, où on a des pâtisseries qui vont déborder sur le trottoir, tout un commerce informel aussi qui va se mettre au diapason de ce moment religieux. Et donc, les personnes que nous avons rencontrées, quelle que soit leur origine, encore une fois, ont un discours tout à fait similaire et racontent venir dans ce quartier pour se ressourcer, mais aussi, c'est ce qu'ils disent, pour retrouver une ambiance. Retrouver une ambiance qui leur rappelle celle du pays. Alors, tant et si bien que le quartier peut même être considéré comme une sorte de milieu de substitution pour apprendre à vivre, entre guillemets, à l'africaine. Et là, je vais citer Madi, qui est un autre interlocuteur de Marianita, et qui lui racontait, qui lui disait « Alors, tu sais, mes parents m'ont envoyé plusieurs fois au Mali ou au Sénégal pour que je vive un peu à l'africaine. C'est important pour eux. Ils ont fait leur vie ici, ma mère a des boutiques, mon père en a ici et aussi au Mali. Moi, je suis née ici, mais pour eux, c'est important. Je dois savoir comment on vit à l'africaine. On ne se comporte pas de la même façon. Comment je dirais ? Tu ne rencontres pas les gens de la même manière. Tu ne salues pas pareil et tout ça. Donc, il faut envoyer les enfants là-bas. Et si tu n'as pas d'argent, tu fais en sorte qu'ils passent du temps à Château Rouge. Tu les emmènes avec toi faire des courses quand ils sont petits. Et puis, ils vont grandir et ils reviendront tout seuls. Et comme ça, quand ils vont en Afrique, ils ne sont pas dépaysés. Alors, de quoi cette ambiance de ressourcement est-elle faite ? On voit bien dans ce témoignage que la réponse en termes de référence culturelle, elle ne peut pas résoudre l'énigme, à moins de considérer qu'il existerait une culture africaine, ce qui, d'un point de vue anthropologique, n'est absolument pas tenable. Alors, continuons à réfléchir à partir de ce matériau. Revenons-en notamment à Malik, premier interlocuteur sénégalais étudiant à Paris, qui raconte sa découverte du quartier et qui dit, donc la citation est un peu longue, mais je pense que c'est un matériau qui fait penser, donc c'est important d'aller au bout de la citation. Il raconte « Quand je suis venu dans le quartier, avant d'y habiter, c'est une ambiance qui me rappelait la vie de quartier au Sénégal. Là-bas, il y a une chose que tu ne trouves jamais ici à Paris. Le soir, les gens sortent. Ils s'assoient devant les maisons. Ils discutent. Ils font du thé. La vie n'est pas comme ici. Une personne passe devant toi et tu lui parles. Tu le salues, il rigole avec toi et il passe. Ils ne sont pas des Sénégalais, ces gens-là, pourtant. Ils sont ici, quoi, pas des Sénégalais. Et pourtant, même ça, et parfois même, pardon, ça peut être des Français ou bien des nationalités qui ne sont pas africaines. Et je me dis, est-ce que les gens, quand ils viennent ici, donc dans le quartier, ils se départissent de ce qu'ils sont vraiment pour être dans l'ambiance du quartier ? Le temps qu'ils sont ici est pour rentrer dans une autre ambiance après. Finalement, je crois que c'est ça qui se passe. Et peut-être que c'est normal, parce que tu ne te comportes pas dans le 18e avec les amis sénégalais, comme tu te comportes à la fac avec tes amis français qui sont dérangés pour peu de choses. Ici, tu es moins censuré, tu te censures moins. À l'extérieur du pays et dans un milieu différent, on censure beaucoup. C'est une règle de vie en société. Dans le quartier, je bouge pas comme ça au centre Pompidou. Mais pas parce qu'ils sont des Noirs. Si c'était des Blancs, avec les mêmes comportements, ce serait pareil, comme en Italie. C'est pas le fait qu'ils sont Africains, mais comment ils occupent l'espace, comment ils vivent. Ça ressemble au pays où j'ai grandi en courant dans les rues, pieds nus, à 7 ans. Je trouve que ce passage est intéressant, pour ce qui nous concerne. Alors, de quoi elle est faite, cette ambiance de ressourcement ? Alors, je vais vous faire des propositions, mais qui sont des propositions que j'offre à la discussion. Il me semble qu'il y a deux caractéristiques principales. La première, c'est ce que je pourrais appeler le droit de cité, c'est-à-dire qu'on a affaire à un espace hospitalier. La plupart des personnes que nous avons rencontrées dans ce quartier, avec qui nous avons échangé, expriment le sentiment d'être dans ce quartier, dans un espace où ils ont droit de cité. Ils disent, ça se sent dans les regards, tu es à ta place. Hein, et qu'il y a véritablement le sentiment d'un passage, d'un changement d'ambiance, pour le coup, et d'un passage de frontière quand on arrive dans ce quartier, c'est-à-dire l'impression que, par ailleurs, ils ressentent des regards, des attitudes qui les renvoient à un statut d'étranger. Hein. Donc, une des premières caractéristiques de cet espace, de cette ambiance, c'est le fait qu'on a affaire à un espace qu'on pourrait qualifier d'hospitalier. Deuxième caractéristique, c'est l'accessibilité relationnelle. C'est un quartier qui est la scène d'une sociabilité publique intense. Hein. C'est un quartier où les espaces publics, les trottoirs, sont occupés par à la fois le commerce informel, hein, qui est multiforme, on pourra en discuter, je ne vais pas détailler, et aussi par des regroupements, hein, ce que Alain Batguet appelait les hommes debout, donc simplement des gens qui se retrouvent, qui se donnent rendez-vous sur le trottoir devant telle ou telle boutique, tel ou tel café, pour échanger, pour discuter, pour se retrouver, etc. Donc il y a une occupation de l'espace public intense, et cette sociabilité publique, elle a une force centrifuge. Hein, c'est-à-dire que cet espace, ce quartier, est aussi, se caractérise par une grande accessibilité relationnelle. Dans cet espace, il est très facile de rentrer en conversation, hein, et tout va être prétexte à l'entrée en conversation. Alors, la reconnaissance d'abord des discriminants du rôle, hein, que ce soit les discriminants du genre ou de l'ethnicité, mais aussi la reconnaissance d'une langue, hein, ou d'un ethos national. On va reconnaître une démarche, on va reconnaître une manière de s'habiller, on va reconnaître, etc., etc., autorise systématiquement des apostrophes et justifie des entrées en relation. Et du coup, ces occupations de rue, elles engendrent des effets de résonance dont la portée va bien au-delà de ce qui constituerait le centre, hein, de ces petits regroupements. C'est-à-dire qu'il y a une dynamique de communication publique qui va rendre ces mondes poreux et qui va les articuler bord à bord. Hein, donc là, on a, à mon avis, deux caractéristiques, hein, de cet espace et de cette sociabilité. Hein, le droit de cité, un espace hospitalier, et une accessibilité relationnelle du fait qu'on a affaire à un espace de sociabilité publique. Alors, deuxième point, autre question qu'on doit se poser, c'est comment opère ce ressourcement par une ambiance, hein. On voit bien que trop de personnes de nationalités différentes affirment retrouver dans le quartier une ambiance qui leur rappelle le pays, pour qu'on puisse se contenter d'une explication en dernière instance par ce qui serait des dispositions culturelles. Et il me semble que c'est davantage du côté des émotions collectives que nous pouvons trouver des clés de compréhension. Et je m'appuierai pour finir sur un texte de Louis Quéré qui s'intitule « Nature et forme de l'émotion collective ». C'est un texte qui est en ligne, c'est un texte assez dense, assez long, mais extrêmement riche. Par ce texte, je vous propose d'explorer l'idée d'une ambiance en « oui mode ». W-E, hein, oui mode. Alors, qu'est-ce que nous dit Quéré, enfin, partie de ce raisonnement, encore une fois, le texte est très dense. Hein, il dit qu'on peut distinguer plusieurs modalités de partage des affects. Première modalité, c'est le cas où les affects se trouvent par hasard simplement similaires, donc il n'y a pas une modalité qui va nous intéresser ici. La seconde est celle de ce qu'il appelle le patient intégré, hein, reprenant ce concept de Onnes, et qui suppose donc l'implication commune dans une situation où, on pourrait dire autrement, le subir et l'agir sont partagés, hein. Donc une situation où subir et agir sont partagés et vont se construire dans une forme d'ajustement réciproque. Donc là, c'est la deuxième modalité de partage des affects. Et puis, la troisième, c'est celle d'une dilatation de l'expérience personnelle jusqu'aux dimensions d'un collectif au contour vague. Alors, ce texte est vraiment intéressant parce que, vous voyez, se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment collectif dans une ambiance collective et quel est ce mode collectif ? Est-ce que, effectivement, si on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la juxtaposition, hein, d'ambiance individuelle qui se retrouve similaire, si on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre de la contagion, Si on a affaire à quelque chose qui est lors de l'imitation ou de la participation, l'engrenage ou l'aiguillon qui permet de monter de l'individuel au collectif n'est absolument pas le même. Hein, donc pour les affaires qui nous intéressent ici, je trouve que ce texte est, un vrai cadeau. Et il me semble donc que cette troisième modalité de partage des affects, donc celle de la dilatation de l'expérience personnelle, caractérise finalement l'ambiance du quartier telle qu'elle est vécue par celles et ceux qui viennent s'y ressourcer, sur différents modes que je vais détailler rapidement pour finir. D'abord, sur le mode le plus simple de la coprésence, tout d'abord, hein, c'est-à-dire le fait que ce quartier permet de se sentir organiquement, si ce n'est pas membre, au moins légitimement à sa place. Hein, le fait que c'est un espace où, effectivement, on peut, du coup, expérimenter le fait de ne plus être minoritaire, ne plus être un intrus, ne plus être scruté comme n'étant pas à sa place. Hein, premier point. Donc, le mode le plus élémentaire, hein, de la coprésence. Deuxièmement, sur le mode de l'évidence partagée. Hein, c'est-à-dire que c'est aussi ce qui caractérise de manière beaucoup plus générale, finalement, les safe spaces, hein, des groupes minoritaires. C'est-à-dire que ce sont des espaces où on n'a pas besoin de tout expliquer. C'est des espaces qu'on n'a pas besoin de tout justifier, hein, et où on peut expérimenter le fait qu'on partage une évaluation similaire des événements. On partage une sorte d'allant de soi. Hein, et on voit bien que et du coup, là, il y a quelque chose qui se partage et qui est plutôt lié donc, à cette, encore une fois, ce statut de minoritaire. Troisièmement, sur le mode de la participation publique, et qui consiste donc à la fois à éprouver des émotions participatives dans le partage d'un événement, par exemple un match de foot. Hein, si l'Algérie gagne un match important au niveau international, il y a une fête du tonnerre dans le quartier et on voit des gens qui arrivent de partout pour se retrouver ensemble, fêter ensemble, etc. Pareil pour l'équipe du Sénégal, etc. Donc c'est un espace qui va permettre d'expérimenter hein, des événements collectifs, ressentir que sa propre émotion fait partie d'une émotion commune manifeste, hein, qui fait partie de l'émotion d'un « nous », dans lequel l'émotion de chacun est constituée par l'interdépendance qui est générée par l'appartenance et l'identification au groupe. Hein. Donc, éprouver donc, des émotions participatives dans le partage d'un événement, éprouver aussi une appartenance collective par le partage d'un rythme non séculier. Hein, toutes ces fêtes religieuses, le ramadan, l'Aïd, etc. Ou aussi d'autres événements publics qui vont permettre en fait, aux individus, qui vont assurer chacun que ses propres dispositions, attitudes et réactions ne sont pas idiosyncrasiques et donc qui vont permettre de lever l'incertitude sur le partage des évaluations, des interprétations et des repères collectifs. Là, je cite Louis Quéré. Hein, donc, éprouver des émotions participatives dans le partage d'un événement, éprouver une appartenance collective dans le partage d'un rythme non séculier ou d'événements publics, et puis sur le « oui » mode, enfin, que Quéré va présenter comme une émotion collective de haut niveau, parce que, du coup, elle ne limite pas, disons, le caractère collectif des émotions à la coprésence corporelle et à l'interconnaissance. Et elle va laisser la place la médiation de l'imaginaire. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin, pour ressentir une émotion collective, d'être tous réunis en face à face. Et l'émotion collective n'est pas nécessairement un produit de la situation et de la relation de réciprocité ou de l'ajustement. Hein, donc, du coup, ce « oui » mode permet aussi d'imaginer, enfin de penser des situations où, justement, il y a médiation d'un imaginaire du collectif. Donc le nous peut être aussi une communauté imagée. Et on est dans un quartier qui est aussi un espace où se négocient les identités collectives, qui sont à géométrie variable, dans l'interaction. Et ces identités renégociées sont des supports d'identification renouvelés. Voilà, il me semble, du coup, c'est la proposition que je vous fais, que cette ambiance de ressourcement trouve en fait comme ressort cette épreuve d'une émotion collective comme expérience de la dilatation du jeu. Voilà, puis je m'arrêterai là.
Merci Virginie. Et comme la dernière fois, on passe tout de suite à la deuxième intervention de Rima.
Okay. Alors bonjour à tous. Rainer m'a présenté, donc je suis doctorante au Cresson. Je mène une thèse sur la question de ce qui fait patrimoine dans trois cités d'habitation à bon marché, donc ce qui sont les HLM d'aujourd'hui, à Grenoble, cité de l'Abbaye, de Jean Massé et de la Capuche. Aujourd'hui, je vais plutôt présenter le cas particulier de la cité Jean Massé qui a été démolie, reconstruite. Pendant que je parle, je vous propose de découvrir ce bouquin qui a été fait par l'Union de quartier lors de la démolition de la cité. Je laisse Rainer vous le faire passer. Alors, le récit que je vais vous présenter, il a été surtout animé par les questions que nous ont transmises Jean-Paul et Rainer, qui sont donc qu'est-ce qui fait ambiance et lui donne sens, quel est le rôle des effets de présence et effets de signification dans l'émergence d'une ambiance, quel rôle joue le cadre bâti dans cette perspective, et sur le plan méthodique, comment la vie sociale peut-elle être abordée si on la considère comme génératrice d'ambiance. Alors, je suis partie d'une citation qui est, donc je commence, « Les virtuels sont là, tout autour de nous, ils apparaissent, disparaissent, se transforment au fur et à mesure que la réalité elle-même change. » Donc, cette citation est tirée du livre de David Lapougette. Et cette citation, elle nous rappelle très vite ce que Jean-Paul Thibault écrit dans son article « Les puissances d'imprégnation de l'ambiance » à propos du mode opératoire de celle-ci. Je cite Jean-Paul. De l'ordre de l'infraordinaire, se donnant sur le mode de l'évidence, elle s'efface devant les affaires courantes et passe généralement inaperçue. L'ambiance relèverait donc ainsi, comme les êtres virtuels, d'éléments à peine visibles au regard ordinaire et que nous éprouvons au quotidien, parfois sans même en être conscients. En étant, je cite, à l'articulation des formes sensibles, des formes sociales, mais aussi des formes construites, elle nous offre donc la possibilité d'enquêter sur des espaces ordinaires, mais à forte signification affective. Comment alors pour nous saisir ces existences moindres, donc les percevoir, de manière à pouvoir les partager et leur donner leur légitimité, donc les faire voir, pour reprendre les termes de David Lapougette, dans des processus de transformation de la ville. Dans notre recherche, ce qu'on postule, c'est que c'est en enquêtant par l'intérieur qu'il nous est possible justement de les saisir, de les révéler. Pour cela, il devient nécessaire de construire et ou mobiliser des outils nécessaires pour saisir le vécu social. Je cite la préface du livre de Franco Ferrarotti sur les histoires de vie. Saisir donc le vécu social, le sujet dans ses pratiques, dans la manière dont il négocie les conditions sociales qui lui sont particulières. C'est alors dans la méthode des itinéraires de Jean-Yves Petitot, qui consiste à suivre celui qui nous guide par le corps et la parole sur un territoire qu'il invente et construit par la mise en scène de son récit, que nous allons trouver les outils à même de faire voir ces existences moindres de la vie quotidienne, souvent imperceptibles par l'extérieur. Je vous propose donc de discuter autour de ces questions en prenant appui donc sur un terrain d'étude qui me semble se prêter justement à ces attachements significatifs. La cité Jean Massé s'est construite entre 1931 et 1936 au nord-ouest de Grenoble, dans un secteur très industriel, enserré entre l'Isère et la voie ferrée. Pour ces habitations collectives à bon marché qui ont été édifiées par l'Office public de Grenoble, les architectes Faune et Rochas font le choix de l'îlot ouvert qui est composé de 8 bâtiments sur 4 niveaux et qui dessine une cour centrale. Des décennies plus tard, en 2002, le quartier commence à se dépeupler petit à petit en attendant sa reconstruction prévue entre 2008 et 2014. Pour les habitants, accepter la démolition de leur maison s'avère difficile, mais ils sont bien conscients que les murs ne tiennent plus. C'est alors dans ce contexte qu'un ouvrage intitulé « Un quartier de ville », Jean Massé, « Les abattoirs, mémoire pour demain », qui est publié par l'Union de quartier qui est très engagée dans la vie sociale de la cité. Ce livre qui rassemble l'histoire et des témoignages des anciens habitants de Jean Massé se veut être la mémoire de demain pour ce quartier qui se trouve en pleine recomposition. Car le nouveau Jean Massé apparaît aujourd'hui dans le récit de la ville comme l'interface entre éléments historiques hérités de son passé industriel et éléments contemporains qui s'inscrivent dans sa quête à la métropolisation. Depuis quelques années, la cité se recompose donc avec des tours et résidences construites autour pour former in fine le quartier qu'on appelle Confluence Presqu'île. Mais les choses ne sont pas si simples au quotidien du fait de l'histoire de cette cité si longtemps isolée, de sa configuration spatiale, de son échelle, mais aussi des pratiques d'habiter qui y sont ancrées. Et où aujourd'hui se juxtaposent des histoires et des pratiques des lieux très différentes. Ce n'est pas une mince affaire que de maintenir la vie sociale et l'ambiance familiale qu'il y a eu autrefois dans ce quartier. Mais ses habitants espèrent toujours, je cite une phrase de ce bouquin, « retrouver ce qui a fait l'esprit et la joie de vivre de Jean Massé à l'issue de ce projet d'ampleur métropolitaine ». Au-delà même d'incarner un témoin historique et un patrimoine du XXe siècle, c'est par sa forme urbaine qui consiste en un îlot ouvert, avec un espace collectif en son cœur, que la cité Jean Massé offre alors des capacités d'appropriation spatiale et socio-affective singulières. La place au centre est à mi-chemin entre l'espace public et l'espace privé, telle une extension du logement familial. Elle s'apparente presque à une scène de théâtre où prennent place les relations familiales et de voisinage au quotidien et lors d'événements plus exceptionnels. Le cadre spatial n'est plus qu'un simple support, mais un véritable producteur d'actions collectives, de pratiques, d'usages et d'ambiances inédites. Nous supposons alors que c'est à travers leurs caractéristiques physiques, esthétiques, sensibles et sensorielles que les lieux encouragent et facilitent l'émergence de pratiques d'habiter et de liens sociaux solides qui rendent ces lieux habitables, pour reprendre les mots de Chalas, Yves Chalas, et aimables, pour reprendre ceux de Denis Martouzet. Je vous propose alors d'explorer quelques récits pour comprendre quel est le rôle du geste architectural pour la cité Jean Massé. Aujourd'hui, Jean Massé a changé. Il ne reste plus que cet immeuble-là au bord de l'Isère qui a été super bien rénové. Le dernier immeuble là-bas qui reste au bord de l'Isère, on a demandé à garder ses volets d'origine. On a refusé qu'ils mettent des volets neufs. Dans l'ancienne cité, on sentait qu'il y avait eu de la vie. Les arbres là, c'est nous qui les avons fait planter à l'époque. On avait demandé à la mairie de faire l'emplacement avec les arbres. Les premiers là, non, ils sont tout neufs. Mais ceux-là, eux, ils sont d'origine. On a essayé de garder les vieux murs des abattoirs aussi. Ils voulaient tout démolir, mais nous, on a refusé. Et ce qu'on voit là derrière, entre les deux bâtiments tout neufs, c'est la vieille usine Merlingerin. Dans l'ancienne cité, on sentait la vie. Vous voyez, on a refait presque à l'identique la nouvelle cité. Ils ont remis un parc au milieu, mais c'est pas pareil. Il est moins personnel. Avant, il y avait quelque chose de personnel, mais ça s'est cassé. Je pense qu'il y a un patrimoine qui a disparu et ça a tout changé. Ils vous ont montré des photos ? C'est ce côté-là, ça faisait une unité. Il y avait un geste architectural qui était différent, alors que là, ce sont juste des bâtiments à coller. Maintenant, je vous propose le rôle de la place publique ou la place du village. Je cherche une photo de l'ancienne place avant la démolition. Attends, regarde, la place était là au milieu. On faisait la course en sac. Il y avait plein de jeux. L'ancienne place tenait tout l'ensemble au milieu, là. Elle était chouette, mais je ne te raconte pas les dégâts qu'il y a eu parce que les gamins avec leur vélo, ils allaient trop vite et les jeunes, le soir, ils mettaient de la musique. Alors ceux qui habitaient en face, ils n'étaient pas du tout contents. On y faisait les fêtes de quartier et ça marchait avant. Celle dont je parle a été détruite. C'est Hubert Dubedoux qui nous l'avait faite. Dans la cour de la cité, il y avait beaucoup de monde à un moment, mais depuis un an, on a vu qu'il ne reste plus que les petits. Mon balcon, il donnait sur la place et je surveillais mes enfants quand ils jouaient. La cité, c'était des bâtiments anciens, un peu obsolètes, mais avec des possibilités de vie très importantes, notamment avec la place au milieu. Le nouveau parc, il est bien, mais c'est un jardin public, c'est tout. Tandis qu'avant, il y avait quelque chose de particulier. Ce n'était pas du n'importe quoi. C'est vrai que la cité, elle devait être refaite à l'identique, c'est-à-dire des bâtiments de chaque côté et une grande place centrale. Bon, on a encore un petit jardin, c'est bien, mais cet immeuble-là, il ne devait pas exister. On aurait dû avoir une grande place comme avant, mais pour meubler un peu, ils ont fait cet immeuble. Aussi, je vous propose le rôle de la vie collective. Une fois, on a été sur le journal local avec un collègue. C'est pendant qu'ils démolissaient le quartier. Ils avaient fait un article, « Le dernier village gaulois de la métropole ». À Jean Massé, ils se sont auto-organisés tout seuls. Il y avait une vie communautaire extrêmement forte qui s'est créée parce que c'est des gens qui passaient les week-ends ensemble et les enfants étaient élevés ensemble. On avait un maire avec ses adjoints. C'était la cité libre des abattoirs. On passait pour la quête du quartier. On faisait les adhésions au quartier avec une carte contre quelques francs. Et quand on faisait une fête de quartier, on prenait un orchestre et une fois, on s'est retrouvé à 600 personnes. On l'appelle le quartier Jean Massé, mais en fait, ce n'est pas un quartier. Le midi, après le manger, les dames se réunissaient sur le trottoir pour discuter et tricoter au soleil. Et le mieux, c'était le lavage du samedi. C'était Radio Bassin. On a eu aussi la guerre. Les femmes s'entraidaient entre elles et quand c'est terminé, elles ont continué à avoir cette façon de faire. Et nous, les enfants, on a continué dans l'entraide. Ce secteur-là, c'était comme en famille. On se connaissait tous, on se rendait service. Ici, je me sens comme dans un village et en même pas 5 minutes, je suis au centre-ville. Jusqu'à présent, ça m'a traumatisée de devoir quitter la cité Jean Massé. Ça faisait 25 ans que j'y étais. C'était vraiment comme une famille. J'étais attachée à l'ambiance et au confort. Quand il y avait des fêtes, des kermesses, il y avait de l'ambiance. J'ai rencontré les anciens pour la galette des rois. Ils étaient tous pratiquement nés dans Jean Massé. Ça faisait entre 70 et 90 ans qu'ils étaient là. Ils se sont tous à peu près connus dans le quartier. C'est impressionnant, non ? C'est dans les villages qu'on grandit, qu'on vit et qu'on vieillit finalement. Et bien là, à Jean Massé, c'est comme ça. Enfin, je vous propose le rôle du personnage public. Dans l'union de quartiers, on retrouve dedans Roger et sa femme, Alain et sa femme, la génération un peu des années 60, des 70 ans. Ces quatre personnes, ils portent l'histoire de Jean Massé. Roger, c'est quand même un personnage qui a le contact. C'est la mémoire du quartier, même s'il y a d'autres anciens. C'est lui le personnage du quartier. Tout le monde le connaît avec son béret rouge. Il est très respecté, même par les nouveaux. Il est moins dans les rues maintenant, mais avant, il était tout le temps dehors. Il marche, il regarde, tout ce qui va, tout ce qui ne va pas, il parle aux gens. Ici, à Jean Massé, c'est pas facile de se faire sa place. Les anciens de la cité sont plus connus que les nouveaux qui habitent dans les nouveaux immeubles. Et pourtant, ils s'impliquent. Et même quand ils s'impliquent dans l'union de quartier, ce n'est pas facile, ce n'est pas pareil. Il y a quelque chose qui marche bien d'ailleurs, c'est quand Roger fait avec Actis la fête des voisins. Là, même les adultes, ils viennent, mais dans les autres animations, c'est bien plus rare. Ce qui est curieux, c'est qu'en tant qu'union de quartier, ils nous connaissent tous ici, et surtout les enfants. Quand on se balade avec les élus et qu'on arrive à l'école, ils n'en reviennent pas qu'on soit connus comme ça. Une fois, il y avait l'architecte Porzampart et l'adjoint au maire. Il lui avait présenté le président de l'union de quartier en lui disant « Voilà le chef du village gaulois ». Mais en fait, il se trompait, parce que le chef du village, ça a toujours été Roger.
Merci Rima, et juste la remarque, pour ça je crois qu'on n'a pas tout de suite applaudi parce que c'est la première fois que j'ai pas dû sortir le carton rouge, c'est quand même waouh.
Notre troisième invitée, c'est Gina Ndiam, qui est architecte et paysagiste, elle est également doctorante au Cresson.
Je me présente juste un peu pour en dire que concernant ma thèse, je travaille sur des terrains. Un de ces terrains, c'est le camp Nahr el-Bared, c'est un camp palestinien au nord du Liban. J'ai travaillé comme architecte pour 8 années avec UNRWA, les Nations Unies. J'ai démarré ma thèse, et en démarrant ma thèse, il y avait l'explosion à Beyrouth le 4 août 2020, et où une grande partie de la capitale a été dévastée par cette explosion. Donc, c'était une façon, et je discutais avec Nicolas et Jean-Paul, de penser le processus de reconstruction dans deux phases. Avant, le drame, puis il y a cette reconstruction comme c'est passé avec le camp Nahr el-Bared. Et la reconstruction évoquée, c'est jusqu'à maintenant, il y a plusieurs propositions. Il y a des projets qui ont été réalisés dans la capitale et Beyrouth, dans des bâtiments qui ont été choisis. Donc, ce n'était pas le même cas comme, par exemple, ce qui se passait au camp Nahr el-Bared. Donc, en regardant un peu les questions proposées pour la table 2, donc c'était pour... pas pour répondre à des questions très définitives, mais pour répondre peut-être à la question « Quel rôle joue le cadre bâti dans cette perspective ?» Et sur un plan méthodique, surtout, comment la vie sociale peut-elle être abordée si on la considère comme une génératrice d'ambiance ? Donc, le titre de ce propos, je disais, aborder le vécu des ambiances de l'habitat post-désastre. Donc, dans ce propos, je vais plutôt parler d'une enquête qu'on a réalisée dans les quartiers de Beyrouth, Amar Mkhail. La double explosion 4 août 2020 a ravagé une grande partie de la capitale de Beyrouth. Donc, ce n'était pas la première situation d'urgence dans l'histoire du pays. Tourmentée depuis sa naissance en 1922 par des bouleversements géopolitiques et socio-économiques, le Liban est un pays qui a subi une perpétuelle mutation et transformation de son paysage urbain et naturel. Les guerres et les périodes d'instabilité politique d'après-guerre ont marqué la longue histoire de l'aménagement du pays. Cela a généré des dynamiques délicates de gestion du territoire qui forgent jusqu'à ce jour le contexte social, économique et politique de la capitale de Beyrouth. Suite à cette déflagration meurtrière, le Liban, déjà ruiné par la crise politico-financière et fortement touché par la crise sanitaire liée à la COVID-19, se trouve confronté à un sort politique, économique et humanitaire de plus en plus incertain. La très violente double explosion a mis à terre des immeubles entiers et a provoqué de nombreuses destructions, faisant une centaine de morts et plus de 3 000 de blessés. La destruction de ces quartiers à valeur patrimoniale pose plusieurs problèmes. L'étendue et le coût des dommages, les conditions de vie précaires des habitants sans domicile, l'irrévocabilité de l'aspect patrimonial bâti et vécu de ces quartiers détruits, la vulnérabilité de ces lieux chamboulés va sans doute influencer notre façon d'approcher leur transformation et de penser leur mutation actuelle et future en train de se métamorphoser. Je cite Revier de son chapitre « Penser le désastre » pour introduire de l'ordre dans le désordre que la catastrophe a généré, la seule reconstruction physique ne suffit pas. Après le désastre, il est aussi nécessaire de penser l'événement, c'est-à-dire de s'interroger sur son sens. Donc le propos de cette communication est d'affirmer l'intérêt de la mise en œuvre d'une dimension sensible inhérente aux ambiances urbaines afin d'éprouver la contexture sensible et sociale de la vie urbaine dans ces quartiers dévastés par la double explosion à partir d'une analyse du vécu des ambiances dans ces espaces sinistrés. Comment la notion d'ambiance vécue est-elle à penser et à agir sur ces transformations urbaines dans ces espaces détruits et quel devenir ambiant dans ces espaces sinistrés? Je cite Jean-Paul, aujourd'hui on vous cite beaucoup. Une ambiance peut être définie comme un espace-temps éprouvé en termes sensibles. Elle convoque dans un même mouvement l'ensemble des modalités sensorielles de la perception et se situe à l'articulation des formes sensibles, des formes sociales et des formes construites. La notion d'ambiance relève donc d'un domaine de recherche plurisensoriel et interdisciplinaire, particulièrement attentif au caractère situé, incarné et partageable de l'expérience humaine. Alors que le Liban a connu une longue histoire de reconstruction qui remonte à la guerre civile aux années d'après-guerre, la notion d'ambiance urbaine est souvent une dimension absente dans les débats et initiatives de reconstruction au Liban, de la relation que les gens entretiennent au sein de leur environnement urbain dévasté, et par suite les travaux empiriques qui portent sur l'analyse de la notion d'ambiance urbaine sont relativement peu nombreux. Cependant, penser le processus de reconstruction sous l'angle des ambiances relève d'un exercice complexe et surtout quand on parle d'un emergency project, une reconstruction d'urgence. Mais ceci renvoie au besoin de définir ce que nous entendons par la notion de l'ambiance urbaine, comme Pascal disait, un outil de compréhension de l'espace urbain détruit et comme un outil d'action, de la conception architecturale et urbaine d'un projet de reconstruction. Cette difficulté naquit, comme l'exprimait Niall Alberston, que les atmosphères ne peuvent pas être déterminées ou définies de la même manière que l'on peut définir un objet en déterminant ses propriétés. Les atmosphères sont trop vagues et fluctuantes. Et comme il affirme, on peut cependant décrire les choses dans leur forme de présence et d'expression, et de mettre des mots sur leur caractère des atmosphères pour tenter de décrire le lien qui existe entre les extasies des objets les ambiances et notre état d'être. Également, Jean-François Augoyard affirme que l'habitant a une capacité d'innovation sémantique propre qui contourne l'obstacle de la métaphore langagière et accède au sens par une analyse déductive. De même, il ajoute que, je le cite, « qualitativement, le vécu raconté est déjà du collectif et se constitue déjà comme une expression ». Donc, je termine la citation. Par le biais d'une enquête immersive, l'analyse ambientale adoptée dans notre recherche à Marem Khayil a mis en avant le recueil de la parole habitante afin de rendre compte du sensible du terrain post-désastre. Le quartier Marem Khayil est situé à l'entrée nord du Beyrouth de la capitale. Il est relativement proche du centre historique de la ville, et la limite des frontières administratives de Beyrouth. Ce quartier est considéré comme une destination estivale pour les résidents aisés vivant à Beyrouth, où de nombreux petits magasins au niveau de la rue ont été remplacés par des nouveaux pubs, restaurants et boutiques de créateurs. En raison de son accessibilité à proximité du centre-ville et du quartier Jemaisé, de son caractère abordable, en fait, ce quartier... Pour les caractères à proximité, le prix de loyer est plus élevé. Donc, ce quartier devient le lieu privilégié de la communauté des arts, de l'artisanat et du design. Après l'explosion, plus de 79% des logements de Marem Khayil ont été endommagés. Et une inquiétude se pose également du fait que les bâtiments dont la structure n'est pas solide peuvent présenter un risque pour la sécurité des intervenants et des habitants. Donc, on a réalisé plusieurs visites ont été menées dans le quartier Marem Khayil et plus spécifiquement dans la rue d'Arménie, où les stigmates du désastre sont toujours visibles 2 ans après la double explosion. Les visites étaient réalisées à plusieurs reprises. Donc, la première enquête a été réalisée 4 mois après la double explosion dans la rue d'Arménie, avec un groupe d'étudiants du département d'architecture à l'Université libanaise. Elle consiste à parcourir cette rue et à restituer des observations, c'était ça l'exercice, par rapport à la situation actuelle, de s'inscrire dans une problématique de l'expérience, en accordant une attention toute particulière au registre sensoriel, au ressenti et à l'écoute. La restitution de ces visites est présentée sous forme d'étincelles, inspirées d'étincelles de Cresson, mais c'était de réaliser chaque groupe d'étudiants, c'est la même rue, donc chaque groupe a fait son propre étincelle. En sorte qu'il soit possible de donner en tel moment une certaine allure, une manière d'apparaître de cette rue, tout en dégageant l'ensemble des traces matérielles, telles que les ruines, les dégâts, les travaux de reconstruction, et aussi l'expression affective des habitants de cette rue. Donc cette première restitution a révélé un discours d'attachement, de résilience et de résistance dans la manière de réhabiter, dans la manière des habitants à réhabiter leur propre espace suite à ce drame. On peut aussi parler c'était une ambiance hospitalière. Une fois, on voulait parler avec les personnes, ils voulaient vraiment nous raconter ce qui se passait avec eux, parce qu'ils voulaient donner leur avis, qu'on voulait vraiment revenir à notre maison. On ne voulait pas une reconstruction comme la reconstruction qui s'est passée au centre-ville. Donc, à un moment donné, ces transectes sont devenus un outil de communication et d'échanges, et avec des réunions avec UN Habitat, ils ont proposé d'utiliser ces transectes parce qu'ils présentent une lecture holistique, et cet exercice, ils nous parlaient qu'ils n'ont pas pu faire, de la relation habitant-rue-foyer-commerce, qui dépasse la relation de l'habitant et le foyer, mais aussi de l'habitant avec toute la rue. 2 ans après la double explosion, la deuxième enquête, qui est toujours en cours avec nos étudiants, est munie avec des étudiants maintenant du département d'urbanisme à l'Université libanaise, dont l'objectif est de tracer ce qu'on appelle une carte commentée, qui est inspirée du parcours commenté, des lieux évoqués, détruits, réhabilités et délaissés, à partir des entretiens qu'on a pu mener jusqu'à maintenant avec une quinzaine d'habitants. Georges, qui est l'un de ses habitants et qui nous a reçus dans son salon de coiffure, vous n'allez pas m'applaudir, lors de notre visite à Marem Khayil le 7 septembre 2022. Donc une fois qu'on va leur donner, qu'on leur explique qu'on voulait l'entendre, parler de ce qui se passait avec eux, tout de suite il nous reçoit il a reçu dans son salon. Donc j'étais avec ses clients. Je vais juste quelques mots de ce qu'il me disait. Donc, il était grièvement blessé. Son salon situé à proximité a été ravagé par le souffle de l'explosion. Quelques semaines après ce drame, j'ai dû retourner à mon salon. Je l'ai pu réparer grâce aux aides que j'ai reçues. J'ai besoin de bosser. Mes enfants refusent de retourner pour vivre dans notre appartement qui n'est pas très loin d'ici. Nous essayons de vivre le jour au jour comme si rien n'est passé, mais on est tous cassés de l'intérieur. Le cœur est toujours blessé. Si tu vas de ce côté, tu vas remarquer que beaucoup des immeubles, des maisons, sont sévèrement endommagés, détruits et délaissés, malgré que des personnes vivent à l'intérieur. Dans ce contexte que je l'appelle des foyers marginalisés et une reconstruction médiatisée, les transectes, la carte commentée, mettent en jeu l'ambiance du lieu, les anticipations et les schèmes rythmiques dans une temporalité que cette temporalité qui peut être à un certain moment définie, court, post-désastre et pré-reconstruction. Mais dans un deuxième temps, elle est longue, indéfinie, en passant d'une reconstruction de l'emergency au dérisoire. De ce fait, ces méthodes constituent des représentations qui contribuent à construire une certaine esthétique de la transformation de ces espaces post-drame et tentent de comprendre à travers la parole recueillie comment ces espaces sinistrés sont réhabités dans l'attente d'une reconstruction évoquée. Merci.
Et nous passons finalement à l'intervention de Charles.
Eh bien, bonjour tout le monde. Alors, je suis désolé, moi, j'ai beaucoup moins été sérieux que mes collègues qui ont des textes écrits. J'avoue y avoir réfléchi il n'y a pas longtemps hein, à ce que je vais essayer de vous dire. Et tout ça en respectant les 10 minutes. Alors, moi, j'ai... À 15, tu ne devrais pas ouvrir cette porte-là, Rainer. Je te le dis comme ça. Alors moi, quand j'ai lu le texte, et puis il y a deux choses qui m'ont... Je ne suis pas sûr de les avoir compris, je ne pense pas pouvoir les épuiser, mais enfin en tout cas qui me font réagir, c'est la dimension, le caractère ambiental des mondes sociaux, et en l'occurrence là, moi je vais essayer de vous parler des mondes de l'art et de la culture, enfin pour ce que j'en comprends. Et l'autre phrase qui a déjà été énoncée, c'est la vie sociale comme génératrice d'ambiance. C'est des choses qui me paraissent assez intéressantes. Et comme vous brûlez de tout savoir, les mots clés, hein, comme ça, là, qui me viennent et qui, en fait, vous allez le voir, ne viennent pas de moi, mais de nombreuses discussions avec mes collègues, notamment qui sont ici ou en live, là, en Zoom. J'ai envie de vous parler de transpiration sociale. J'ai envie de vous parler d'extatisme et de débordement. J'ai envie de vous parler de la scène comme une ambiance remarquable. Et peut-être terminer, si j'ai le temps, mais je pense que je vais oublier, de la différence qu'on pourrait faire ensemble entre espace public et espace du public dans la perception des ambiances. Alors, tout ça s'inscrit dans un cadre. Je suppose que c'est la raison pour laquelle je suis ici. C'est qu'avec Rainer, avec Jean-Paul, avec Nicolas, avec Laurent qui est en Zoom et d'autres collègues, on participe à un programme de recherche qui s'appelle SKAENA, c'est une ANR, dont l'acronyme signifie, un joli acronyme d'ailleurs, signifie scène culturelle, transformation et ambiance urbaine. En fait, le point de départ du programme de recherche, c'est une insatisfaction. On est un certain nombre d'économistes de la culture, d'urbanistes, de géographes, si vous voulez, à s'intéresser à ce qu'on appelle les modalités d'encastrement dans la ville des activités culturelles et artistiques. Et quand vous vous frottez un peu à ces questions-là, très rapidement, vous tombez sur une grille d'interprétation du frottement entre ces activités de production artistique, de production culturelle et le territoire. C'est la géographie économique. C'est l'économie territoriale qui sont probablement les plus avancés sur ces questions et qui donnent beaucoup de clés de lecture de comment et pourquoi vont s'agréger des acteurs qui participent à la production artistique ou culturelle sur un territoire. Quels sont les avantages qu'ils ont à travailler ensemble de manière très proche, proche en termes d'institutions, de manière de travailler, mais proche aussi géographiquement. Mais alors le problème, si vous voulez, c'est que, ici je crois qu'on partage tous une certaine sensibilité, si j'ose dire, à la question spatiale, c'est que quand vous discutez avec des économistes, et c'est là que ça devient un peu problématique, c'est que, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, il y en a peut-être dans la salle, c'est qu'en économie, l'espace, au mieux, c'est une distance. C'est-à-dire, c'est une distance entre un point A et un point B. En géographie économique, lorsqu'on parle d'espace, on parle véritablement du coût que représente la distance qui va séparer une activité de production d'une autre activité de production. C'est quand même un peu emmerdant, parce que quand on est urbaniste, architecte, etc., l'espace, non. L'espace, oui, bien sûr que c'est une distance, mais l'espace, il a des propriétés matérielles, physiques, son tissu bâti, la forme de l'espace foncier, tout cela s'inscrit dans l'espace-temps avec toute une série de propriétés qui vont bien au-delà de la seule distance. Puis alors en plus, si vous rajoutez la couche socio-culturelle, c'est-à-dire que cet espace il est habité. Donc les activités de production, artistiques et culturelles certes, mais toute activité de production, lorsqu'elle s'enchasse dans la ville urbaine, elle s'enchasse en réalité dans une complexité urbaine qui va bien au-delà de la seule question de la distance. Et alors le problème qu'on a, c'est que toutes les grilles de lecture qui nous sont proposées, alors je vais vous dire des mots, mais je ne sais pas si vous les connaissez, puis on ne reviendra pas dessus, ce n'est pas le problème, cluster, district industriel, système productif localisé, tout cela, ce sont des grilles de lecture, des modalités de coordination d'un certain nombre d'acteurs enchâssés dans un système productif. Je vous parle d'art et de culture, mais je pourrais vous parler de nouvelles technologies, par exemple. À Grenoble, ça a du sens. Et au final, au mieux, on arrive à l'idée que, dans le fond, les modalités d'encastrement des activités culturelles artistiques dans l'espace fonctionnent d'autant mieux qu'elles sont bien coordonnées. Et c'est là qu'on arrive. Parce que nous, on arrive en disant, non, quand même, hein, ça ne suffit pas. Tous les grandes figures de quartier d'artistes, et je vais vous en parler deux, je vais vous faire deux exemples, un que vous connaissez, un que vous connaissez peut-être moins, montrent que non. En réalité, ces activités de coordination sont centrales, mais ce qui est encore plus central, c'est la manière dont elles interagissent avec le contexte urbain et socioculturel dans lequel elles se déploient. Alors, le premier exemple, c'est Montmartre. Si je vous dis Montmartre, vous pensez tout de suite bohème, vous pensez une des... Parmi les avant-gardes, le cubisme, vous pensez le nord de Paris, vous pensez patrimoine, vous pensez tourisme, etc. Quand vous êtes en économie, c'est un cas extrêmement intéressant pour illustrer les modalités de disruption dans le champ de l'innovation. C'est vrai que Montmartre, c'est le lieu de concentration privilégié entre la fin du 19e et le début du 20e siècle de toute une colonie d'artistes, pour l'essentiel qui viennent de la question de l'écriture, de la littérature, mais également de plasticiens, qui à un moment, si vous voulez, vont être en rupture, en disruption, on pourrait dire, pour reprendre le langage économique, par rapport à l'académie. C'est le salon des refusés des impressionnistes, qui d'ailleurs ne sont pas à Montmartre à ce moment-là. C'est les innovations radicales de Picasso, de Braque, qui vont procéder à des collages et qui vont, si vous voulez, constituer une rupture assez totale par rapport au mode d'expression de l'époque et qui vont réinventer, et c'est là que les économistes se saisissent de la question, vont réinventer la monstration, vont court-circuiter l'académie, vont se passer parfois même de l'académie pour pouvoir montrer leur travail dans des galeries. C'est une réorganisation de l'écosystème de la production artistique qui va de celui qui produit la peinture à celui qui crée et celui qui le commente, le critique d'art, etc. Là-dedans, Montmartre n'est qu'un support. Si vous regardez l'histoire de l'art, c'est pas beaucoup plus intéressant. C'est-à-dire que les historiens de l'art, quand ils vous font l'histoire des avant-gardes, c'est une histoire héroïque qui est ponctuée de grands noms qui, à un moment, vont être autant de bifurcations dans les modalités d'expression de l'art, etc., etc. Jusqu'au moment où vous dites, tiens, qu'est-ce que les urbains, les géographes urbains, les archis, tout ça, peuvent raconter de la question. Et alors là, vous avez une manière assez différente de raconter ces innovations artistiques. Par exemple, quand vous dites Montmartre, la première chose que vous dites, c'est que Montmartre, ce n'est pas un territoire, ce sont des territoires. C'est d'abord le bas Montmartre, c'est Pigalle, c'est l'économie du divertissement, l'économie du sexe, le lieu où le bourgeois s'encanaille. Mais ce n'est pas le lieu de résidence de l'artiste. En réalité, les artistes, lorsqu'ils se concentrent à la fin du XIXe siècle, ils sont dans le haut Montmartre, juste en dessous du Sacré-Cœur, dans ce qu'on appelle la butte. Et puis alors, quand on regarde vraiment, si on fait une analyse typomorphologique du haut Montmartre au début du XXe siècle, en réalité, c'est un espace rural qui est en train de s'industrialiser, il y a de la proto-industrie, et qui est un espace rural sur une pente, à cheval avec une butte, aux portes de Paris, qui vient d'ailleurs d'être à peine intégrée, hein, on est au-delà des fermiers généraux. Et c'est un espace dans lequel, qui est pour l'essentiel peuplé de friches agricoles, le bateau Lavoir, par exemple, là où Braque et Picasso vont longtemps vivre, c'est une friche agricole. Et là où ça devient super intéressant, c'est que ce lieu, c'est un lieu dans lequel vivent des ouvriers agricoles, des ouvriers, un habitat assez, dans des conditions d'habitat extrêmement précaires, et qu'en réalité, Braque et Picasso, par exemple, qui sont les tenants, si vous voulez, du cubisme, sont des gens qui, habités par la radicalité des anarchistes, qui vivent plutôt dans le bas Montmartre, et mus par une volonté de réécrire les codes de l'art de l'époque, vont, si vous voulez, partager les modalités de vie de la population de Montmartre. Ils vont vivre dans des conditions de précarité extrêmement élevées, alors qu'ils pourraient vivre dans d'autres conditions. Ils vont vivre de cette petite économie de subsistance. Et là où ça devient intéressant, c'est qu'en réalité, les premières œuvres de Braque, notamment, qui vont procéder du collage, qui est une rupture totale par rapport aux modalités d'expressivité de l'époque, vient tout simplement sous la forme d'une espèce de transpiration dans le champ de l'art, d'une observation de la réalité des modes de vie de cette communauté industrielo-agricole du Montmartre du début du XXe siècle. Ce que je vais vous dire par là, première chose, c'est qu'en réalité, quand on essaye de mettre bout à bout transformation du système de production artistique, le lieu où il est clos et l'innovation dont il est l'œuvre, finalement, on se rend compte que le lien à la communauté qui habite est au moins aussi important que l'innovation que poursuivent ces artistes. Donc, première chose, il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'ambiance sociale et culturelle du quartier de Montmartre qui transpire dans les innovations artistiques dont Braque et Picasso seront les auteurs. Première chose. On quitte Paris, on arrive au Chicago des années fin 80, début 90, dans un quartier que je pense que vous connaissez moins, mais peut-être que je me trompe, qui s'appelle Wicker Park. Wicker Park, c'est typique du quartier Première Couronne dans le downtown de Chicago, où on retrouve un tissu, si vous voulez, essentiellement constitué d'industrie légère, qui, frappé d'obsolescence, se vide progressivement de ses habitants et de ses activités productives à la fin des années 80, et est très rapidement repeuplé par toute une série d'activités essentiellement liées à l'industrie de la musique. En gros, c'est le haut lieu du pop, du rock, grunge, punk, du Chicago de la fin des années 80, début des années 90. Ce qui est très intéressant, c'est que ce quartier, il a été observé par quelqu'un qui s'appelle Richard Lloyd, qui en a fait une sorte, si vous voulez, de lieu d'expérimentation et typique de ce qu'il appelle la néo-bohème. C'est un espace dans lequel les observateurs, anthropologues, montrent une chose qui est assez proche de ce que vous disiez de la goutte d'or à Paris. C'est que, à mesure que colonise l'espace, pour toute une série de raisons, les artistes, musiciens, pour une grande part, il y a une interaction qui se joue à l'échelle du quartier entre les concerts qui, de manière répétée dans l'espace-temps, se concentrent dans ce quartier, et qui vont ameuter, si vous voulez, tout un public jeune, hein, entre, disons, 15 et 25 ans, qui se rend au concert, qui occupe l'espace-temps, c'est-à-dire le lundi, le mardi, le week-end, qui est un moment fort, à tel point que Wicker Park, c'est le haut lieu du rock dans ces années-là à Chicago. Et ce qui est très intéressant, c'est que cette population, population vient écouter les concerts, mais elle a une certaine manière de s'habiller. Elle a des codes vestimentaires, des normes de comportement qui, en fait, vont faire déborder dans l'espace public toute l'activité du public des concerts. À tel point, d'ailleurs, que l'industrie créative de l'époque, notamment dans l'industrie de la mode, on est loin de la musique, va venir observer à Wicker Park la manière qu'ont les jeunes de s'habiller pour pouvoir s'inspirer dans les nouvelles manières, si vous voulez, d'habiller la jeunesse de l'époque. En gros, le lieu, dans cet effet de débordement des activités culturelles par son public, dans l'espace public, cet espace du public qui articule public et privé, va devenir un espèce de lieu d'expérimentation de toute une série de pratiques culturelles qui vont bien au-delà de la question musicale. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de l'extatisme des activités de production artistique dans l'espace public. L'extatisme, je pense que Jean-Paul vous en parlera bien mieux, entendez par là quelque chose qui est de l'ordre du perceptible, qui fait que l'identité de Wicker Park, alors même que dans la mémoire collective, c'était le quartier obsolète industriel déclinant, va radicalement changer pour devenir le haut lieu du divertissement, de la culture pop, punk, précisément pour ce qui se passe autant dans les cafés, dans les concerts, que dans ces effets de débordement dans l'espace public, du public qui vient écouter cette musique, mais qui a une certaine manière de s'habiller. Je simplifie, mais ce qui me paraît intéressant là-dedans, c'est vraiment l'idée de transpiration, de débordement, et c'est la manière dont nous, dans le cadre de SKNA, on entend comprendre le lien entre transformation, fabrique urbaine, transformation urbaine, ambiance, et cette hypothèse que, dans le fond, la ville peut être une scène lorsque se rend visible ce genre de choses-là. Je m'arrête.
Applaudissements.